Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Le canton du Jura ne freine pas l'expulsion des criminels étrangers. La ministre de l'Intérieur l'a indiqué ce matin à la tribune du Parlement. Nathalie Barthelot a largement relativisé des chiffres publiés récemment. Une élection à la mairie se profile à Hal. Karine Genesta-Nagel a annoncé hier soir sa démission pour la fin de l'année. La centriste invoque des raisons professionnelles et politiques. La possibilité de contourner les obligations militaires suisses devrait être moins facile pour les doubles nationaux. Le Conseil des États a accepté ce matin une motion en ce sens du Conseil national. Météo, le ciel de la région va se partager entre nuages et soleil cet après-midi. Il fera entre 9 et 11 degrés maximum. Le temps s'annonce nuageux demain, mais pas d'averse au programme. Le Parlement jurassien se penche en ce moment sur le budget 2026 de l'État. Le législatif cantonal examine la mouture du gouvernement qui présente un déficit de 16,2 millions de francs. Les différents orateurs ont insisté sur la particularité de cet exercice puisqu'il prend en compte l'arrivée de la ville de Moutier au 1er janvier prochain. Un seul amendement a été déposé. Il émane du groupe Vert et CS Pop et demande d'augmenter de 780 000 francs à 1 million la part cantonale dédiée aux subventions pour l'assainissement énergétique des bâtiments. Le Jura ferait figure de mauvais élève dans l'expulsion des criminels étrangers. L'accusation a été formulée ce matin au Parlement par le député UDC Philippe Rotel lors des questions orales. L'élu de Lémontin a mis le doigt sur une statistique du secrétariat d'État aux migrations publiée récemment. Les chiffres indiquent que 4 renvois sur les 13 prononcés en 2024 ont été effectués, ce qui représente 30%. La ministre de l'Intérieur a donné des explications et a mis en cause la manière de compter, Nathalie Barthelot.
La manière choisie par le SEM pour calculer le ratio n'est pas complètement opportune. En effet, il ne comptabilise que les expulsions pénales entrées en force la même année. Par exemple, sur les 13 expulsions prononcées en 24, 3 ont pu être exécutées en janvier et février 2025 seulement, ce qui change déjà la statistique. Par ailleurs, sur ces expulsions pénales prononcées, 3 personnes ont aussi quitté le territoire sans preuve vérifiable. Donc, à ce jour, seul un cas est encore pendant et les 12 autres personnes concernées ont été renvoyées, ce qui constitue un taux de renvoi de 92,3% si vous vous attachez aux chiffres. Concernant le cas de la personne qui est encore pendant, elle est actuellement en détention administrative et sera prochainement citée pour une audition. Enfin, il convient de rappeler que pour 2023, le taux pour le canton du Jura était de 70,4%, ce qui démontre la volatilité de l'exercice vu le petit nombre de personnes aussi au bénéfice d'une expulsion pénale. Mais je peux vous assurer que du côté du canton et en guise de conclusion qu'il n'y a strictement aucune volonté de ne pas expulser ceux qui doivent l'être.
Uber débarque dans le Jura. La plateforme de mobilité a annoncé ce matin le lancement graduel de ses services dans le canton. L'application est désormais accessible pour commander une course. Les trajets sont effectués par un chauffeur de taxi professionnel selon le communiqué de la multinationale américaine. Le Jura était le dernier canton suisse à ne pas être couvert par les services d'Uber. Nous y reviendrons plus en détail dans le journal de 18h. Elle aura tenu les rênes d'Hal durant 3 ans. Karine Genesta-Nagel va quitter la mairie du village à Joulot à la fin de l'année. L'élu centriste en a fait l'annonce hier soir dans les divers de l'Assemblée communale sans en avoir averti ses collègues du Conseil en amont. Au total, Karine Genesta-Nagel aura servi sa commune durant 13 ans et œuvré dans de nombreux dossiers, notamment la rénovation de l'école et la pérennité de la ligne ferroviaire Porrentruy-Bonfol. Elle motive son départ par de nouvelles opportunités professionnelles et politiques. Karine Genesta-Nagel.
Voilà, j'ai eu des opportunités aussi au niveau professionnel qui est en forte progression. Et puis récemment, j'ai été aussi élue en tant que députée suppléante, une fonction qui va me prendre encore du temps en supplément. Et puis à un moment donné, il faut savoir faire un choix parce que on est humain. Et puis le temps est très fort compté. Et puis voilà.
Est-ce que cette élection de députée suppléante n'aurait pas été justement à l'inverse une opportunité pour la commune d'Hal d'avoir une maire, quasiment députée-maire si on veut ?
Oui, alors c'était une opportunité aussi. Après, ça fait aussi quelques années que je suis dans la commune. J'ai fonctionné dans des commissions en tant que conseillère communale et en tant que maire. Et puis les fonctions tout cumulées encore avec mon nouveau défi professionnel fait que ça fait beaucoup au niveau du temps. Il y a des choix à faire dans la vie et puis il faut aussi savoir se préserver.
Des propos recueillis par Cyprien Lovy. Le conseil communal d'Arles se réunira mardi prochain pour désigner l'élu appelé à assurer l'intérim jusqu'à l'élection de la personne qui succédera à Karine Genesta-Nagel. Le Swatch Group est visé par une enquête en Italie. Le numéro 1 mondial de l'horlogerie est accusé de pratiques anticoncurrentielles, selon une information dévoilée ce matin. Davantage de précisions avec Diana Lacosta.
C'est le gendarme italien de la concurrence qui a ouvert hier une enquête contre le groupe selon une information de l'AFP. L'autorité cherche à déterminer si Swatch Group, mais aussi son concurrent japonais Citizen, ont imposé des prix de vente à leurs distributeurs en ligne au-delà de simples recommandations tarifaires. Selon l'autorité italienne, les deux groupes auraient exigé le respect de prix prédéfinis et auraient surveillé systématiquement les tarifs pratiqués par les détaillants. Les enquêteurs évoquent même de possibles mesures de rétorsion à l'encontre de revendeurs qui proposeraient des remises. L'autorité de la concurrence a mené des inspections le 3 décembre dans les locaux italiens des deux entreprises pour vérifier une éventuelle violation de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit notamment la fixation des prix. Swatch Group confirme à l'agence AWP ses visites et assure coopérer pleinement. Le groupe dit vouloir faire toute la lumière sur une possible pratique non conforme concernant ses marques Tissot Italie et Mido Italie.
Les binationaux franco-suisses qui résident en Suisse ne pourront plus échapper au service militaire helvétique. Ils ne pourront plus se réfugier derrière la journée de défense, et citoyenneté à laquelle ils participent et qui fait office de service de remplacement en France. Ils sont un peu plus de 700 par année dans cette situation. Après le Conseil des États en septembre, le Conseil national a décidé aujourd'hui par 147 voix contre 35 de les astreindre à la taxe d'exemption s'ils ne choisissent pas d'effectuer le service militaire. La présidente de la commission de politique de sécurité du Conseil national, Jacqueline De Quattro.
Tous les Suisses sont astreints au service militaire, c'est le principe. Puis après, il y a des exceptions et la possibilité de payer des taxes. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des Suisses qui ont une autre nationalité, notamment la double nationalité française, qui les exempte de cette obligation par le simple accomplissement d'une journée d'information. Et évidemment, là, il y a des inégalités de traitement qui sont criantes. Le but, ce n'est pas de remplir les caisses de l'État. Le but, c'est de motiver davantage de jeunes à s'engager pour défendre leur pays.
L'île Maurice est notre destination de la semaine. RFJ s'intéresse à cette île de l'océan Indien, prisée par les touristes suisses. L'eau, en apparence abondante, est au cœur d'un défi majeur, tant pour l'approvisionnement des habitants que des infrastructures touristiques. Maurice, paradis des touristes où l'eau ne coule pas de source, est une série en 4 épisodes réalisée par Marceline Michon pour Enquête d'ailleurs, un programme d'échange entre journalistes de Suisse et de l'étranger. Dans ce 3e épisode, place aux tensions que fait peser le tourisme sur l'approvisionnement en eau.
J'habite à côté d'un complexe et eux, ils reçoivent des camions d'eau à longueur de journée. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui n'ont même pas d'eau courante à Grand B, donc.
Le contraste raconté par Sonia, une Suissesse habituée des vacances à l'île Maurice, est marquant. Les couleurs du lagon, la douceur de l'océan, l'eau est un argument touristique majeur à Maurice, mais l'eau manque dans certains foyers. Piscine ou golf, le tourisme est grand consommateur d'eau. Selon les chiffres du ministère, la consommation pour une chambre d'hôtel, soit 2,2 personnes, égale celle d'un foyer mauricien de 3,7 personnes. Le ministre délégué au tourisme, Sidney Pierre.
L'eau représente un défi majeur pour l'industrie du tourisme, tout comme l'énergie. Donc, nous avons une consommation qui n'arrête pas d'augmenter et avec les arrivées touristiques qui augmentent également. Donc, bien sûr, surtout quand on va rentrer là maintenant en été, la consommation d'énergie va exploser.
C'est Emmanuel Reynard, professeur de géographie à l'Université de Lausanne, qui explique les tensions que le tourisme fait peser sur l'eau.
Le fait touristique a une importance dans la mesure où il provoque en général une concentration temporaire de population. On va distinguer dans beaucoup de régions touristiques une haute saison et une ou plusieurs basses saisons. Et une autre problématique concerne les équipements, les infrastructures, parce que finalement, dans les régions touristiques, où parfois la population est multipliée par 10 entre la basse et la haute saison, on va devoir dimensionner les équipements pour la haute saison, même si celle-ci ne dure que quelques semaines. Et ça, évidemment, ça a une incidence sur les coûts de l'infrastructure. dans les hôtels, on a des pratiques qui sont plutôt dommageables pour l'eau. C'est tout ce qui concerne les self-service, les pratiques all-inclusive. Le problème, c'est que comme les gens ont payé, ils payent un forfait. On a quand même beaucoup de gaspillage de nourriture et ça, ça se traduit aussi par un gaspillage en eau.
Pour les Mauriciens, mieux vaut ménager la chèvre et le chou, comme raconte Vera Penlogadasen, agriculteur maraîcher à Triolet, qui fournit hôtels et restaurants.
Les touristes sont en vacances, on ne veut pas leur priver de l'eau pendant les vacances, mais nous, on doit faire avec pour faire les légumes grandir, les animaux, il faut boire de l'eau, tout ça, on doit essayer. S'il n'y a pas d'eau, le tourisme ne va pas venir à l'île Maurice. Ça, c'est le problème. Mais les légumes vont rester ici, il n'y a pas de clients. Il faut essayer d'adapter avec eux.
Approvisionnement en eau et développement touristique vont de pair pour Sunil Gopal, chargé de communication à la Central Water Authority.
Il faut absolument qu'on puisse garantir une fourniture d'eau pour que le développement puisse se poursuivre. Parce que nous savons que le tourisme est quand même un atout majeur pour notre économie, donc il y a cette considération. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a l'effort de la part des opérateurs dans le secteur du tourisme.
L'eau, c'est la vie, et à Maurice, c'est aussi une ressource touristique et donc économique incontournable.
Un reportage réalisé par Marceline Michon à l'île Maurice dans le cadre du programme d'échange entre journalistes en quête d'ailleurs. Demain à 8h15, ne manquez pas le dernier épisode de la série où nous verrons comment les acteurs touristiques innovent pour assouvir leurs besoins en eau. Enfin, Guy Parmelin a été plébiscité à la présidence de la Confédération. Le conseiller fédéral vaudois en charge du département de l'économie a obtenu 203 des 228 voix exprimées. Il s'agit d'un record. L'élection vient d'avoir lieu à Berne. L'élu UDC siège au conseil fédéral depuis 10 ans. Il accède pour la deuxième fois à la présidence du pays après 2021, Guy Parmelin succédera le 1er janvier à la Saint-Galloise Karine Keller-Souter.
RFJ, les 12h27.
RFJ, sport.
En cyclisme, l'équipe Élite Fondation et son mécanicien jurassien Dominique Juira veulent offrir un tremplin. La formation va faire son entrée la saison prochaine sur le circuit Continental Pro. Il s'agit de la troisième division mondiale de la Petite Reine, derrière les équipes du World Tour et celle de la division Pro Team. Élite Fondation compte 11 coureurs professionnels, dont plus de la moitié de Suisse. L'ajoulot Dominique Juira a rejoint l'équipe il y a 3 ans. Il évoque les objectifs de la formation cycliste.
L'important de notre équipe, c'est qu'on redonne une deuxième chance à certains coureurs qui sont à un bon niveau, qui ne sont pas toujours été là au bon moment ou manque de performance par rapport à une blessure ou ça. Chez nous, on leur donne une chance et d'évoluer et d'être surtout dans une structure familiale.
Avec pour objectif principal aussi d'encadrer avant tout, on va dire, les coureurs romands, les coureurs de l'arc jurassien aussi.
Voilà, exactement. Le but, c'est, il y a des structures en Suisse allemande, hein, comme Tudor 36.5 et en Suisse romande actuellement. On a la seule équipe à ce niveau-là. C'est pour ça qu'aussi on a décidé, aussi par rapport à des invitations de course, un règlement UCI, de passer une catégorie supérieure, donc professionnelle.
Il y a aussi une demande. Si vous accédez à cette troisième division, c'est forcément qu'il y a des coureurs qui sont attirés.
Malheureusement, oui. Il y a beaucoup de demandes et peu d'équipes, en fait. On n'a rien qu'à voir sur le milieu professionnel, dont Arkea, qu'on en parle. Ils n'ont pas reparti, donc ça fait tout de suite 30 coureurs sur le carreau. Et voilà, je veux dire, le but, c'est d'arriver dans l'équipe Pro Team d'ici quelques années. Et puis, surtout, qu'on nous laisse du temps.
Des propos recueillis par Michel Léoni, le jurassien Nolan Donzé fait partie de l'équipe Élite Fondation, mais il n'a pas encore de contrat professionnel. Enfin, hockey sur glace, le HC Franche-Montagne peut retrouver sa deuxième place dans le championnat de My Hockey League. Il devra toutefois battre le 9e Wetzikon ce soir en terre zurichoise. La rencontre est prévue à 20h15. Le HCFM a déjà pris la mesure de son adversaire 5-2 cette saison.